Si vous entendez la voix du Seigneur aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Soyez transformés par la puissance de la parole de Dieu.
Merci pour cette heure qui vient de passer. Et merci pour celle qui va suivre. Autant celle qui vient de passer a servi à ta gloire, qu'il en soit de même pour celle qui suit. On ne met pas dans vos bouts de papier que vous pourrez mentionner. Deux Rois chapitre 4, le seul verset premier. Deux Rois 4, le seul verset premier. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. Un duo difficile à comprendre. Beaucoup de crainte de Dieu, mais beaucoup de dettes aussi. Nous reviendrons sur ça tout à l'heure. Nous lisons aussi le premier livre de Rois, au chapitre premier, le premier verset au verset 4. Le roi David était vieux, avancé en âge, on le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle les soigne, qu'elle couche dans ton sein et mon seigneur le roi s'échauffera. On chercha dans tous les territoires d'Israël une jeune fille belle et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et les servit, mais le roi ne la connut point. Lisons aussi le deuxième livre de Samuel au chapitre 11. Et là nous partons du premier verset au verset 5e. De Samuel chapitre 11. Du premier verset au verset 5e. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il s'est promené sur les toits de la maison royale, il aperçut de là une femme qui s'est baignée et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uriel et Hétien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, il coucha avec. Après s'être purifiée de sa sueur, elle retourna dans sa maison. Verset 5, cette femme devint enceinte. Et elle fit dire à David, je suis enceinte. Avant dernier passage, Genèse, au chapitre 18. Et nous lirons du verset 9 au verset 13. Alors ils lui dirent, ce sont des anges, des créatures célestes, qui sont venus visiter Abraham. Où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui est derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et bien cela. Et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir d'enfants. Et soulignez surtout le verset 10, elle rit en elle-même en disant que je suis vieille. Aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille. Lisons, je préfère même dire mieux, nous relisons Philippiens chapitre 4, du verset 11 au verset 13. Donc, ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Depuis le dimanche passé, nous avons commencé à aborder une série sur les contentements. Et nous avons posé les bases ainsi que les fondements sur cette réalité que l'apôtre Paul dit, ceux qui la pratiquent ont un profit. Ils ont un gain. Cette réalité associée à la piété enrichit toutes celles et tout celui qui se plaît à la pratiquer. Et parlant de cette réalité, nous avons montré que si elle est pratiquée, ça plaît à Dieu, mais ça nous profite d'abord à nous-mêmes qui la pratiquons et ça profite à notre environnement immédiat. Je dois avouer, j'ai été assez dérangé cette semaine Parce que dans la planification, dès le départ, quand je priais, que j'essayais de placer les trois manières dont j'allais aborder cet enseignement, je pensais à cette introduction de la semaine passée. Et dans ma classification, je pensais aujourd'hui parler des bénéfices du contentement. Et puis je pensais clore avec Bible, vie des couples et contentement. Mais dès que je finis dimanche, je suis allé, j'ai commencé à prier, ça a commencé à se bousculer dans mon cœur de renverser l'ordre, de parler d'abord de la Bible, de la vie des couples et du contentement. C'est-à-dire les contentements, mais attachés à la vie des couples. Avant de parler de ceux qui sont les cibles de cet enseignement de ce matin, j'aimerais dire que cet enseignement sur les contentements ne fait que mettre en exergue une réalité sur laquelle nous avons parlé depuis le début de l'année, qui doit être notre richesse, chose que nous devons tenir pour marcher, la sagesse. Et dans la sagesse, il y a un ingrédient particulier qui est le bon sens. Et la plupart des choses qui seront mentionnées, c'est certes l'action du Saint-Esprit, mais attaché à ce que le bon sens, que seule la nouvelle naissance apporte, peut habiter dans un cœur. Proverbe, au chapitre 1er, au verset 3 jusqu'au verset 5. Les sages nous montrent la raison pour laquelle ils placent les fondements en disant « Écoute ces choses, écoute telle autre chose. » Il dit « Ces choses vont faire une chose, elles vont te donner des leçons de bon sens. » Des leçons de bon sens. Il est étonnant, en lisant Marc au chapitre 5, au verset 15, quand il est parlé de la délivrance de cet homme qu'on appelait les fous de Gadara, qui agissait d'une certaine manière. Il n'avait pas honte, il n'avait pas l'essence des valeurs, il manquait de pudeur. Mais dès l'instant où il a été délivré, la Bible dit, il était assis, vêtu, mais dans son bon sens. Il a retrouvé un certain jugement. Parler du bon sens, c'est parler de la faculté de bien juger. Aidez-moi à poser la question à votre voisin, avez-vous un bon sens? Faculté à bien juger. Parler de bon sens, c'est parler aussi de discernement. Parler de bon sens, c'est parler de justesse dans le jugement et dans les actions. Mais parler aussi de bon sens, c'est parler de lutter. Dans Psaume 32, verset 28, je blâme une nation. Et la raison pour la nation, il dit, cette nation a perdu le sens et ils n'ont pas l'intelligence. Quand il les voit agir, il se demande, est-ce des humains ou est-ce des animaux? Et même quand on parle des animaux, il y a des animaux qui des fois ont plus de bon sens que les humains que nous sommes. Dans 1 Samuel chapitre 25, au verset 3 ainsi qu'au verset 33, la Bible vante encore le bon sens, parlant d'une femme appelée Abigail. On dit qu'elle était belle de figure, mais on dit aussi qu'elle avait le bon sens. Jugement aiguisé. Et même plus tard, quand David vient vers elle, plutôt elle vient vers David, David dit, ton bon sens m'a empêché de faire un dégât. Si tu n'avais pas eu ce sens du jugement, et toi et ton mari, vous serez détruits en ces jours. Dans Psaume 14, au verset 4, le psalmiste qui a observé dit, tous ceux qui commettent l'iniquité manquent le bon sens. Le bon sens. J'aime souvent dire, des fois sans le Saint-Esprit, si on a juste un peu de bon sens, il y a des choses qu'on ne ferait pas. Aller avec la petite sœur de sa femme. Kouriantsousou. Aller avec un domestique. Aller avec une bonne. Quelle dévaluation. Il y a des choses sans le Saint-Esprit. Toi, mais tu restes dit, non, ça, je ne dois pas faire. Mais le bon sens, seul Dieu donne cela. Sans Dieu, vous allez vous comporter comme un animal. Quelles des histoires des fois on entend dans des familles. Un homme capable d'aller avec ses nièces. Des fois des enfants qu'il a vu naître. Qu'il a portés. Parlant d'un homme, un politique, on m'a dit, lui, il tire sur tout ce qui bouge. Donc dès que tu bouges, allez. Là, j'y vois pas. Dans le psaume 119, au verset 66, le psalmiste fait une belle prière. Et je prie que ce soit ta prière, ma prière, notre prière. Et dit, enseigne-moi les bons sens. Enseigne-moi les bons sens. Et à ce niveau, j'aimerais dire que mon message de ce matin a trois publics cibles qui peut être réparti de la façon suivante. Les premiers publics, ce sont les très jeunes. Ils ont entre 15 et 25 ans. Pour eux, certaines vérités qui seront mentionnées en ces jours sont et peut-être seront encore des réalités lointaines, théoriques. La plupart des choses que je vais mentionner, surtout vers la fin, seront des choses que vous avez difficile à appréhender pour le moment. Mais j'aimerais dire, notez, gardez les notes, achetez les CD, achetez la cassette. Dans quelques années, ça sera d'actualité. Il est bon de les connaître, afin que les jours où elles vont arriver, et quand vous puissiez vous souvenir de cet enseignement, et que vous puissiez avoir les réflexes qu'il faut au moment où il faut, parce que vous avez été équipé d'avance. Dans Jean chapitre 12, au verset 16, la Bible confirme cela, la nécessité quelquefois d'être équipé de manière anachronique avant le temps. Écoutez ce que la Bible dit. Les disciples n'ont compris pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus était glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites les concernant et ça avait été accompli à son égard. Combien de fois je peux me rappeler ces leçons que mon père m'a données, ces conseils qu'il m'a donnés quand j'avais 9, 10, 15, 20 ans. Je ne les percevais pas et je les comprends maintenant. Il me disait un jour au long, on ne comprend les parents que quand on devient soi-même parent. Et ça c'est vrai. On peut beau vous expliquer, faut respecter les parents, c'est quand vous-même, les parents, que vous comprenez cela. Deuxième public cible, sont les jeunes mariés. Ils ont entre une année et 20 ans de vie de couple. Et en âge, ils ont entre 25 et 45 ans. Eux, ils commencent à découvrir certains problèmes. Ils commencent à découvrir certaines réalités. Et quelquefois, quand ils rencontrent ces réalités, ils ont l'impression que ce sont des générations spontanées. Ils ont l'impression qu'ils sont les seuls à les vivre. Ce que vous vivez, d'autres l'ont vécu. Des petits problèmes, des mésententes, d'autres l'ont vécu avant vous. Ils trouvent certaines choses anormales à eux. Je donnerai ces conseils qu'un ami de Job a donné à un autre. Dans Job chapitre 8, versets 8 à 10. Interroge ceux des générations passées. Mais j'aime surtout, sois attentif à l'expérience de leur père. Combien de gens qui nous ont précédés sont comme des matériels didactiques, sont comme des cours gratuits. Seulement, les observants vont tirer certaines leçons. Verset 9, il dit, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont que ombre. Va vers eux, ils t'instruiront. Ils te parleront, ils tireront de leur cœur des sentences. Une autre version, ils tireront de leur cœur ce qu'ils ont accumulé. J'aime beaucoup être en contact avec des gens plus âgés que moi, plus expérimentés que moi. Ils mettent à ma disposition des choses qui sont comme un vaccin, qui m'empêchent de passer par certaines choses pour arriver aux mêmes conclusions, alors que d'autres sont passés avant. Je peux me servir de leurs conclusions et éviter certaines choses. Troisième public cible. Ce public n'est pas très majoritaire à Philadelphie, mais il y en a quand même. Ils ont entre 45 et 80 ans. Ils ont 20 ans de vie de couple au minimum. Ils en ont 30, 40, 50. Ils vivent des problèmes dont on ne parle pas ou peu. Ils n'osent pas en parler en public. Et surtout quand je toucherai à la fin des problèmes attaché à la sexualité. Ils souffrent, elles souffrent en secret. Car comme nous le verrons, au-delà des problèmes, des différences sur le plan tempérament sexuel, il arrive des fois que ces tranches d'âge expérimentent d'autres problèmes, la différence d'âge et les accidents de la vie. Ce n'est pas une loi écrite. J'ai souvent conseillé aux jeunes, vous voulez vous marier, c'est vrai, jeune fille, qui n'est pas trop un écart d'âge. Quand ça commence à aller vers 10, 15 ans, quand toi tu es encore aux fleurs de l'âge, tu désires certaines choses, lui il est en panne. Il commence à être de moins en moins fort, j'en parlerai. Et pour qu'il fonctionne bien, tu es obligé de les doper. Et dans les dopages, toi tu gagnes, lui il perd. Même son espérance de vie était. Parce que le dopage réduit un problème du présent, crée d'autres problèmes futurs. Surtout la deuxième partie, j'essaierai de parler, je prie Dieu qui me donne la grâce et la justesse. Parce que certaines choses qui seront maintenant auraient dû être à bon renom des couples. Mais j'essaierai de voir jusqu'où je peux aller, ou jusqu'où je ne peux pas aussi aller. Et on verra peut-être pourquoi pas, dans une réunion des couples, aller plus loin. Les textes que nous avons lus au départ nous présentent des problèmes, et des problèmes sérieux. Dans Genèse, au chapitre 18, au verset 12, lorsque la Bible parle de cette expérience qu'Abraham et Saraï sont en train de vivre, la Bible dit que quand l'ange vient promettre à Saraï la progéniture, Saraï, bien qu'étant en face de Dieu, s'est mis à rire. Vous aurez une progéniture. Saraï veut dire, Dieu, toi tu habites au ciel. Tu es trop éloigné. Tu ne sais pas comment ça fonctionne dans cette maison. Dans cette maison, on joue aux cartes, on joue aux billes. Mais il y a des choses qu'on ne fait plus. Le ciel est tellement éloigné. Tu auras un enfant. Ça c'est Saraï. Ça veut vraiment... Abraham et moi, désormais, on joue seulement aux cartes. On joue aux billes. Nintendo. Elle dit même, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. La version française qu'on dit, maintenant je suis usé et mon mari est un vieillard. Elle ajoute dans le français courant, le temps du plaisir est passé. Ah, tangutozalaka. Nouvelle Bible, la seconde dit, maintenant que je suis usé, elle-même en parle, aurais-je encore du plaisir? Et elle ajoute, d'ailleurs, mon maître aussi est vieux. Le problème n'est pas seulement d'un côté, le problème est de deux côtés. Nous reviendrons sur là encore dans 1 Roi chapitre 1er, verset 1, la Bible parlant de David, on dit, il était vieux, avancé en âge. On les couvrait de vêtements et ne pouvait se réchauffer. Et il n'avait que 70 ans. Sa vieillesse a été plus conditionnée par le style de vie qu'il a mené depuis l'âge de 17 ans. C'est pourquoi faites attention, ayez une hygiène de vie. 70 ans, vieillard croulant. J'ai vu d'autres à 80 ans, 90 ans, ils sont encore forts. Ils pouvaient se réchauffer. Et David qui tirait sur tout ce qui bougeait. Le verset 4 dit, on lui amène une jeune fille belle qui s'est collée à elle. David ne l'a connue pas. Il ne l'a pas connue, non pas parce qu'il ne voulait pas. Il ne pouvait plus. Quand il regardait, il dit, ah, attends, on a ça là-bas. Je reviendrai sur cela, sur ce sujet vers la fin. Avant de revenir et parler aux différentes tranches d'âge, je me dis ce matin que j'aborderai ce sujet sur les contentements attachés à la vie des couples en touchant deux points importants. Un, les finances. Et deux, la sexualité. Premièrement, les finances ou l'argent. Et deuxièmement, la sexualité. Aux couples en gestation, aux couples nouvellement formés et aux vieux couples, j'aimerais dire une chose importante, attachée au contentement, mais liée aux finances, vivez avec les moyens que Dieu vous donne. Et le contentement, comme l'apôtre Paul a présenté, dans Philippiens 4, 11, lorsqu'on se dit, j'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. Ce terme riche nous donne quatre principes que nous devons appliquer, connaître et appliquer, attacher au contentement dans la vie des couples, mais dans les domaines des finances. Les tout premiers principes, apprenons à accepter et à vivre avec ce qu'aujourd'hui nous... Apprenons à accepter de vivre avec ce qu'aujourd'hui nous donne. C'est-à-dire suffire avec cela. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 8, lorsque Paul enseigne les contentements, il dit une chose merveilleuse. Il dit, si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Il parle de la suffisance, cela nous suffira. J'aime encore ce que la version Tob, traduction œcuménique de la Bible dit, nous nous en contenterons. Une autre version dit, nous ferons tout pour trouver notre plaisir dans ça.
Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça ne sera pas forcément tout ce que nous voulons. Mais nous allons nous dire, je me contente de ça. Je trouve mon plaisir dans ça. Et le terme suffire qui est utilisé ici dans sa racine en grec cache trois idées principales. Suffire veut dire constituer l'élément déterminant pour obtenir des résultats. Si nous avons cela, cela nous suffit. Cela constitue les éléments déterminants pour que nous puissions avoir les résultats que nous désirons. Deuxièmement, suffire veut dire constituer la quantité nécessaire. Si nous avons la nourriture et les vêtements par rapport à maintenant, nous allons dire que c'est la quantité nécessaire qu'il nous fallait. N'allons pas aller au-delà. N'allons pas faire de la gymnastique pour avoir plus. Troisièmement, suffire veut dire satisfaire ses aspirations sans les secours extérieurs. Si nous avons ça, nos aspirations seront satisfaites. Que des gens qui n'arrivent pas à se suffire, à accepter ce qu'aujourd'hui leur donne. Deuxièmement, deuxième principe attaché au contentement, c'est qu'il ne faut jamais prendre des engagements financiers au-delà de nos revenus. Ne jamais prendre des engagements financiers au-delà de nos revenus. Et la plupart des fois, par complexe d'infériorité ou par esprit de compétition inutile. J'aimerais vous dire, à moins que ce soit Dieu qui vous a parlé, si Dieu ne vous a pas parlé, mettez-y un peu de bon sens. Tu gagnes 250 dollars. Elle ne travaille pas. Non, si on continue à habiter ces quartiers, tous les amis, toutes les amies habitent ma campagne, allons prendre cette maison de ces dollars. Vous allez payer comment? Son salaire, c'est 250. Et j'aimerais vous dire, frère, ne vous appuyez pas quelquefois sur la foi de votre femme. Comme quelqu'un a dit, ça, c'est pas la foi biblique. Il a dit foi d'Ingombi. Il a dit, ça, c'est pas la foi avec F-O-I, foi avec F-O-I-E. D'Ingombi. Elle va vous parler de la foi, mais quand ça va barder, c'est vers vous qu'elle va revenir. Vivez avec les moyens que vous avez. Ne prenez jamais des engagements au-delà de vos revenus.
Si quelqu'un est d'accord avec moi qui m'aide à dire Amen. Amen. S'il y a des mamans qui pensent que je suis inspiré, qu'elles m'aident à dire Amen. Amen. C'est timide, mais ce n'est pas grave.
Habillez-vous selon vos revenus. Habitez là où vous habitez selon vos revenus. Si les revenus augmentent, vous augmentez aussi. J'ai dit à moi que vous ayez reçu une parole de Dieu, mais une vraie alors. Pas les gens où c'est la femme elle-même qui est prophétesse et bénéficiaire. Le mari gagne 150 alors qu'ils sont en pleine prière des couples. Ngaïnkolo, nalobito kotanda kwana 600. Et le mari, ngaïnkolo nalobito zela. Que des gens qui vivent au-delà de leurs moyens. Dans 2 Rois chapitre 4, verset 1er, nous l'avons lu. Il nous est parlé de cette femme, veuve d'un prophète. Étonnant. Ces deux réalités mises côte à côte, parlant de son mari, il dit, craignez beaucoup l'Éternel. Mais il dit, il a laissé des dettes. Et les créanciers sont venus prendre mes enfants. On ne veut prendre ses enfants que si les dettes étaient élevé. Ça montre que cet homme vivait au-delà de ses revenus. Il gagnait peu, mais il avait un standard de vie. Il pensait résoudre un problème, mais quand il est parti, il a laissé des problèmes. Vivons avec nos moyens. Acceptons ce qu'aujourd'hui nous donne. L'absence du contentement amène une réalité qui souvent devient une prison, les dettes. Aidez-moi à poser la question à votre voisin, à votre voisine. Il n'est pas obligé de donner la réponse. J'espère que vous en avez. Dis-le en lingala. Les dettes. Les dettes sont une prison. Un ami m'a dit comment un jour, il tenait coûte que coûte à aller récupérer une dette et cet homme le faisait tourner en rond. Et puis il arrive, il a vu comme de loin il était là. Et il demande au domestique, il semble qu'il avait déjà instruit les domestiques. Il a dit au domestique, ce que vous voyez, le man a koufa. Va dire que je suis mort. La meilleure manière de fuir les dettes. Vous rigolez, les dettes vont vous amener très loin. Vous voyez quelqu'un qui vous devez commencer à faire semblant de ramasser, vous ne ramassez rien. Vous voulez dire qu'il ne me voit pas. Et cet ami a dit plus tard, quand j'ai rencontré celui qui me devait de l'argent, j'ai dit, mais n'est-ce que je suis en train de me faire un peu. Maintenant, tu es ressuscité. Les dettes. Dettes pour manger, dettes pour s'habiller, dettes pour se marier. Les dettes sont des portes ouvertes sur le mensonge, l'absence de paix. Dans Agé chapitre 1, verset 6, le prophète déclare « Les salaires de celui qui a gage, qui a des dettes, tombent dans un sac percé. » Il dit « Celui qui a des dettes, il ne peut accumuler. » Il dit « Ça tombe comme dans un sac percé. » Dans un sac percé, tout ce que vous placez, ça glisse. « Seigneur, aide-moi à vivre sans dettes. » La Bible encourage, dit « Ne devez rien à personne. » Ce n'est les uns les autres. La seule dette, c'est la dette d'amour. Il y a des gens qui ont des dettes colles, non pas avec ces mécas, tellement que c'est costaud. J'en parlerai tout à l'heure. Combien de personnes, des fois, s'endettent pour payer une dette. Ils pensent résoudre un problème. Acculé. Banque Lambert. J'irai chez les cambistes, ils me donnent 100 pour chaque jour de retard, 10 dollars. Déjà, tu n'as pas. Et en 6 mois, 100 dollars deviendront 600. Et tu vas fouiller, tu vas à Brazza. En fouillant, en brasant, là-bas aussi, tu vas reproduire les mêmes tâches parce que c'est toujours toi. Et après, tu iras où les sotos. Celui qui s'endette résout peut-être un problème au présent, mais il les reporte sûrement multipliés dans le futur. Il hypothèque son futur. Aux parents qui marient leurs enfants, aux jeunes gens qui se marient. J'aimerais ouvrir une parenthèse, vous donner un avis et un conseil. Je pense que c'est l'esprit qui me dirige en 3 temps. Le premier conseil, si les moyens vous permettent de réaliser votre mariage des rêves ou le mariage des rêves de votre enfant, si les moyens vous les permettent, faites-les, pourquoi pas. Mais il faudra que les moyens les permettent. Parents, mais aussi jeunes gens qui se marient. Deuxième avis, si les moyens ne les permettent pas, adaptez les choses à vos moyens. Revoyez vos ambitions à la baisse. Il y a des visions qui peuvent subir une révision. Tu rêvais de te marier au Grand Hôtel? Fais ta lisanga. En attendant les 20 ans ou les 10 ans où tu pourras te rattraper. Moi, j'ai été longtemps complexé. J'ai dit à des amis, quand j'étais fiancé avec mon épouse, j'aurais voulu lui offrir une bague de fiançailles. Comme un ami avait dit, l'esprit était disposé, mais la poche était faible. Elle me l'a dit plus tard, elle en a souffert. Et j'ai souffert bien plus qu'elle. Mais je lui ai offert la bague de fiançailles 20 ans après. Là, qui s'abandonne maman. 20 ans après, c'était qu'elle a même versé des larmes. N'a aucune essence. Est-ce que devais-je forcément m'endetter pour lui donner? Et elle m'a accepté. Et au fond de moi, je n'ai pas eu le temps de rattraper le retard. Que des familles qui font des folies pour lesquelles ils n'ont pas de moyens. Dans un but d'un prêtre. Et après, ils se mettent le couteau à la gorge. Vous êtes en train de danser et la réputation va en famille. Oh, mariage à André Zaki Somo. Ça se termine à la soirée. Lundi à 6 heures, quelqu'un vient. Mbongo et mbongo. La fête se transforme en cauchemar. S'il est possible, mariez-vous avec dette zéro. Et quand je parle ainsi, je parle surtout à vous les jeunes sœurs. Bino, bino, bino. Vous les jeunes sœurs, bino, bino, bino. Si les jeunes gens sont d'accord avec moi, dites amen. Habakkuk au chapitre 2, au verset 6 dit, malheur à celui qui augmente les fardeaux de ses dettes. Malheur à celui qui augmente les fardeaux de ses dettes. Proverbe 22, verset 26 dit, ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Il y a des gens spécialistes à dette. J'aimerais donc dire, ma katabango, kamo yako defa. Matthieu chapitre 18, verset 24 à 25, nous parle d'un homme qui devait à son chef 10 000 talents. Je me demande, ces dettes, c'était pourquoi? J'ai essayé de voir l'équivalence. 10 000 talents, c'est 2 400 000 livres sterling. En dollars, 4 millions de dollars. Comment on peut s'endetter juste à ce point? Vous savez, les gens qui s'endettent sont des hommes de foi. Et quand vous voulez vous endetter, le diable vous fait croire que vous aurez demain. Et demain, vous n'aurez pas. Et vous n'avez jamais eu. Votre foi n'a jamais marché, mais vous ajoutez encore. Quand on chante Yahweh, Bilakana, Yoto, tu dis Bilakan, Zambé, Naban, Nyongo. Nabao, Yobachemo. Nous, on pense à autre chose. Toi, c'est les dettes. Est-ce que je peux donner le dernier avis? Dernier avis, si vous voulez faire quelque chose dans le sens de votre mariage, faites-le parce que vous le voulez. Faites-le parce que vous voulez vous faire plaisir, mais ne le faites jamais pour impressionner. Impressionner X ou Y. Ne le faites jamais parce que X ou Y l'a fait. Ton ami d'enfance peut avoir fait le mariage au chapiteau. Fais ton mariage à l'Isanga. Vous n'avez pas les mêmes revenus. En tout cas, nga ba robo na ko defanga nga na ko kate mona ki anite robe uti na potu ya yemoko mutala tate mariage si la bomba ngona ndaka ko laksa bana nae mais il en a les moyens. Toi, tu n'as pas, va louer kakola kutu et ça combien au 100 aux 60. Ainsi, avoir ça depuis 15 heures jusqu'à 22, 23 heures pour la soirée, c'est trop cher. Bon, ce sera un mariage et si le boy a zoron dans le Liban, comme ça, vous diminuez les prix. Ça te permet au moins d'être présentable. Mais va jamais t'engager pour des choses que tu ne peux pas faire. Est-ce que l'Église est d'accord avec moi? Est-ce que des choses comme ça, le Saint-Esprit peut vous inspirer? Si ton ami avait l'humain, si tes tuteurs ou tes parents avaient des moyens, laisse-leur faire les mariages qu'ils veulent pour toi. Mais si vous n'avez pas de moyens adaptés. J'ai aimé, il y a quelques jours, on a eu un mariage, un dimanche, il n'y a pas plus de 3 semaines. Pasteur Alain et les autres ont béni. Il est peut-être ici au premier ou deuxième culte. Je les ai visités dans leur petite maison vers Montgaliem. Petite cérémonie. Petit budget, mais grand mariage. Grand bonheur. Qu'il y a des jeunes filles qui mettent les gens sous pression. Qu'il y a les mamans qui mettent les papas sous pression, ils vieillissent. En tout cas, j'ai honte de ce mariage. Je suis allé au mariage de mon ami X. Tu as vu comment c'était? Les pétales que l'on jette. On avait l'impression de rêver. Tout était comme ralenti. Mais ils en ont les moyens. S'ils peuvent le faire, laissez. Non. Mon mariage civil doit coûte que coûte se passer à l'hôtel de ville. Tu en as les moyens? Alors, combien de Lingua là aussi, un officier de l'état civil? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis, si vous en avez les moyens, allez-y. Mais si vous n'en avez pas les moyens, ne vous mettez pas sous pression. Oh non, et je veux. Ils ont même invité l'officier de l'état civil à un endroit particulier. Ne nous empoisonnons pas la vie et n'empoisonnons pas la vie des autres avec ce que nous n'avons pas. Troisième grand principe, ne nous comparons pas aux autres et il nous faut limiter nos dépenses sans être complexés. Ne nous comparons pas aux autres et limitons les dépenses sans être complexés. J'aimerais nous dire, la vie et le destin ne nous donnent pas tous les mêmes choses au même moment. Dans Genèse au chapitre 45, 22 à 24, il est étonnant. Joseph reçoit ses frères en Égypte. Tous viennent vers lui. Ils sont au nombre de 11. Au verset 24, Joseph donne un conseil à la fin. Il dit, ne vous querellez pas en chemin. Il aurait pu éviter ces conseils. Ce conseil est basé sur une chose, l'inégalité dans la répartition. Ils sont venus à 11. Joseph, tu aurais pu leur donner tous la même chose. Écoutez ce que la Bible dit. Joseph donna à tous ses frères un vêtement de réchange, mais il donna à Benjamin 5 vêtements de réchange et 300 sicles d'argent. Joseph, tu peux éviter ton conseil en donnant à tout le monde la même chose. Et Joseph, là, est un type de Christ. Malgré l'amour qu'il a pour nous, il ne nous donne pas tous la même chose, surtout pas tous la même chose au même moment. Acceptez ce qu'on vous donne, dites à Dieu merci pour ce qu'il a donné à l'autre. Je me souviens d'un homme à Goma, un jour, pasteur, j'ai résolu que mon épouse fasse ses courses, ses provisions, avec sa cousine. Pourquoi? Cousine, son mari travaille dans une organisation internationale, revenu de plus de 4 000 $, et lui-même, il gagnait 200 $. Et vous deux, vous allez au même marché, au même supermarché, faire des provisions. Quand un chariot, toi, tu es obligé de prendre une charrette. Et dit, quelquefois, je vis mon épouse frire, parce que l'autre enterre fruit simplement. Ce qu'on fruit pour un mois, c'est notre budget mensuel de toute la nourriture. On a foufou. Et quand vous êtes ensemble, qu'est-ce que vous ressentez? Quand je la vois rentrer, elle est triste, aigrie. Elle commence à m'attaquer. J'ai dû lui dire, non, pour que je sois en paix, tu feras tes courses à part. Accepte ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. En attendant que Dieu te donne. J'ai toujours béni Dieu pour l'épouse que Dieu m'a donnée. Moi, j'ai grandi dans les manques. J'aime dire, moi, je n'ai pas eu besoin du dictionnaire pour connaître la définition de la pauvreté. Je connais cela. Insuffisance des moyens. Distorsion entre les moyens et les besoins. Non, je n'ai pas eu besoin de lire dans les dictionnaires. N'ayez bien. Quand on s'est aimé, on m'a donné comme salaire à l'époque, à la banque, 80 $. Je dis, chérie, je ne peux rien faire. On va chercher une petite maisonnette. Elle a accepté de venir habiter. La première fois qu'elle a visité la maison, elle devait habiter. Je l'ai vue comme si la foudre était tombée sur elle. Pas de pavement. Pas de toit, de plafond. Toilette qui cosso. K-I-K-O-S-O. Je me souviens, Viviane peut se rappeler, quand elle est rentrée, elle a vu des algues sur le mur. Gaba algues, on en a coulé. Mais elle a accepté. Elle s'est rabaissée avec moi en attendant que Dieu nous amène plus loin. La première fois, il devait m'accompagner pour que j'aille prêcher quelque part. Je devais aller prêcher à Massina. J'ai voulu me battre pour louer un taxi express et j'ai regardé, les finances ne permettaient pas. J'ai dit, parce qu'on a banni dans le taxi express, là, on a remis la paix. J'ai dit, Viviane, on va prendre F-U-L-A. F-U-L-A. Quand on est venu, je ne suis jamais monté. Je dis tout à un début. Elle est montée avec moi. Est-ce que tu es l'autre? Tu es la foule, maman. Tu es la foule. Tu es la foule. Tu Que les fois on se met sous pression pour rien. On gagne peu, mais on veut vivre comme les autres. Et là, j'insiste, c'est surtout vous les femmes. Quelqu'un a dit, les mamans mettent tellement les papas sous pression. Il dit, autrefois, quelqu'un a dit dans l'ingala, autrefois, on dit, batata. Parce que batata, n'a vraiment aucun débat. Dieu a appelé les papas. Là, j'ai arrivé, viens, mon serviteur vient te reposer. Ils ont tellement de soucis, n'a vraiment aucun débat. Il arrive maintenant au ciel, on regarde, oh, toi, tu devais venir à 20. 2014, pas à César Kouna, surtout à maman. Aidez-moi à dire content. Quatrième principe, ne pas laisser ce qu'on pas ou ce que nous n'avons pas encore nous voler notre paix aujourd'hui. Nous voler notre joie, nous voler notre quiétude. Ne pas laisser cela. Paul dit dans Philippiens 4, « J'ai appris à être content. J'ai appris à me suffire. » Jésus et l'apôtre Paul nous donnent de merveilleuses leçons sur le sujet. Matthieu 6, 24 à 34, long passage, nous allons retirer certaines choses. Jésus dit des choses profondes. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et les corps plus que les vêtements? Verset 27, qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 30, si Dieu revient ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtera-t-il pas? Et j'aime ce qu'il dit, gens de peu de foi. Français courant dit, combien votre confiance en Dieu est faible. Il dit au verset 31, ne vous donc point et ne dites point, qu'aimons-nous? Que boirons-nous? De quoi? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. J'aime ce qu'il dit, votre Père, dites avec moi notre Père. Il dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Et j'aime le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Et il ajoute, à chaque jour suffit sa peine. Combien de fois nous prenons les peines de demain, nous les avançons aujourd'hui. Nous souffrons aujourd'hui pour un futur qui n'est pas encore là. J'ai vu quelquefois, je me suis inquiété pour demain. Et quand demain arrive avec ses solutions. Et je regrette les soucis dans lesquels je me suis mis. À chaque jour suffit. Ne prenez pas les peines de mars, de mai, amenez ça déjà en avril, ou avant. À chaque jour suffit. Dans Philippiens 4, 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et j'aime ce qu'il dit. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si certaines choses te dérangent, transforme-la en prière. Et après que tu aies prié, laisse Dieu s'en occuper. Si l'homme et la femme ont tous des besoins matériels et financiers, la Bible nous montre que la femme est plus vulnérable dans ces domaines. Pourquoi? Dans la psychologie de la femme, elle n'est presque jamais satisfaite. Je n'ai pas dit toutefois, je dis presque jamais. Elle aime la nouveauté. La femme dans sa psychologie a très peu de contentement. C'est pourquoi le diable est venu la toucher en premier. Elle avait tout, mais le diable lui a fait miroiter, tu peux avoir quelque chose d'autre. Alors qu'elle s'est suffisée. Non, il vous manque quelque chose. Dieu vous a caché quelque chose. Et c'est ça dans la psychologie de la femme. La femme, c'est pas les habits qu'elle a qui compte, c'est les habits qu'elle aura. Pierre 5, verset 7 dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. J'aimerais, quelques minutes avant de clore, toucher le deuxième point, les contentements par rapport à la vie du couple, mais sur le plan sexuel. Et s'il y a deux termes qui peuvent définir les contentements par rapport à la vie sexuelle, c'est les termes fidélité et les termes adaptation. Dites avec moi, fidélité. Et deuxième terme, adaptation. Par fidélité, le fait d'appartenir à une et une seule personne, d'être sa propriété et de ne faire certaines choses qu'avec cette personne et pas avec d'autres. Déjà dans les jardins d'Éden, à l'institution du mariage, le Créateur dira à l'homme, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, dites sa femme, pas ses femmes, à sa femme. Et le deux, il n'a pas dit le trois, pas les quatre, pas les cinq, le deux deviendront une seule chair. Dans Proverbe chapitre 5, versets 16 à 17, ainsi que le verset 20, les sages est en train de montrer sa tristesse de voir des hommes et des femmes qui vont à l'extérieur. Pourquoi? Parce que leur conjoint et leur conjointe, semble-t-il, ne leur suffisent pas. Écoutez ce qu'il dit. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Le feu pasteur Vernot prêchait un jour. Il a utilisé un thème qui avait choqué certains, mais j'ai aimé ça. Il y a des gens qui vont jeter les semences partout. Des jeteurs de semences. Partout. Au verset 17. Qu'il soit pour toi seul et non pour des étrangères avec toi. Verset 20. Pourquoi mon fils serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu les seins d'une étrangère? Français courant dit, pourquoi t'abandonnerais-tu à une autre femme? Pourquoi chercherais-tu le plaisir auprès d'une autre? Cantique des Cantiques au chapitre 2, au verset 16, abonde dans le même sens, mon bien-aimé est à moi, d'autres versions disent à moi seul, et je suis à lui seul aussi. Dieu veut que l'on s'en contente de sa femme et de son mari. Et par rapport au contentement attaché à la sexualité dans la vie des couples, j'aimerais mentionner avec vous ces cinq pensées que je vous prie de noter. Premièrement, le contentement attaché à la sexualité dans la vie des couples est un dépôt dans nos cœurs, mais c'est aussi un choix. C'est un dépôt dans nos cœurs, attaché à la nouvelle naissance, attaché à la vie que Dieu nous a donnée, mais c'est aussi un choix. Deuxième vérité, le contentement attaché à la sexualité, c'est d'abord une action de Dieu en nous, mais confirmée par des actions que nous posons dans la vie de chaque jour. Dieu opère une action en nous, mais nous-mêmes, nous sommes appelés à poser des actions chaque fois que nous sommes confrontés à des tentations. Sollicitation de l'extérieur. J'ai dit, je valide les choix de Dieu en ne faisant pas. Ça fait 22 ans que je vis avec Viviane. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais connu d'autres femmes. Mais est-ce que d'autres femmes ne m'intéressent pas? Ça serait faux. C'est pas parce qu'on est rempli du Saint-Esprit qu'on voit une femme belle passer, on voit un auto blindé. Je vois, je peux apprécier, mais je dis, je n'irai pas. Je fais un choix. Il y a des choses pour lesquelles la nature elle-même ne vous enseigne pas. Combien de choses impossibles que nous faisons. Vraiment habillé en costume, manger les haricots, il a mélangé du yaourt, et puis il a pris un peu du tangawisi après. Il est en cours de route, son ventre fait goudoudoudoudoudoudoudoudou. Les gros intestins disent, je dois évacuer quelqu'un. Parce que qu'est-ce que tu fais? Partout, ça te prend en cours de route, tu regardes les gens dans les yeux et tu évacues ça en rigolant, en sifflant. Tu fais des gymnastiques impossibles. Certains arrêtent et commencent à bouger. D'autres comme moi qui ont grandi à la cité, on utilise des méthodes, mais qui marchent. Un peu de flas. Qui a déjà fait ça, moi? Simplement pour que ça ne soit pas. Ce qu'on fait dans ces domaines-là, on peut le faire aussi sur le plan sexuel. Ça vient, je dis, je ne ferai pas. Naturellement, sans être esprit. J'aime souvent dire aux jeunes gens, personne n'est jamais mort à cause du désir sexuel. Jamais. À quoi il dit? Oh! Jamais. Mais la sexualité mal gérée tue. Elle amène les sida, elle amène toutes sortes de maladies. Les sida que l'on gagne à l'extérieur et que l'on ramène à la maison. Je suis la sécurité de cette dame, elle est ma sécurité. Tu m'as gardé durant 22 ans, Seigneur. Garde-moi encore autant d'années. Si les hommes qui sont ici sont d'accord avec moi, qui disent Amen.
Amen.
Troisième vérité, le contentement attaché à la sexualité est une marque, est une marche par conviction et pas par impulsion, par conviction. Mais aussi c'est une marche par principe plutôt que par inclinaison. Vous n'aurez pas toujours envie de ne pas le faire. Vous devez décider de ne pas le faire. Principe, je ne le ferai pas. Même si je suis attiré, je ne le ferai pas. Genèse au chapitre 31, le verset 1er, j'aime cet homme, Job. Il dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Je n'arrêterai pas mon regard sur une vierge. Je n'envierai pas une autre femme. Homme des principes, où sont les hommes des principes? Prêt à se déshabiller devant n'importe qui, devant des secrétaires, devant des stagiaires. Il peut rentrer dans un bureau où il y a 10 jeunes filles, 9 ont vu sa nudité, patron. Sony. Ils peuvent décrire votre anatomie avec exactitude. Quatrième vérité. Le contentement attaché à la sexualité, c'est un choix que l'on s'impose et qui peut nous coûter. Ça nous coûte. Ça peut nous faire souffrir. Je dis, je m'impose cela. Mais autant ça nous coûte, je peux nous dire, ça nous rapporte. J'ai vu quand j'étais jeune étudiant en théologie, je venais prêcher l'évangile à Goma. J'ai vu en moins de 2 ans cette famille voler en éclats. Cet homme brillant qui travaille dans cette organisation internationale avec sa femme et ses 2 enfants, des enfants brillants, brillants, brillants. Je n'ai jamais oublié ce petit Gelo, 5 ans ou 6 ans à l'époque quand je l'ai connu. Et une jeune fille est venue faire un stage dans son bureau. Nous les hommes, on est bizarres. Cette jeune fille qui arrive, tu sais d'où elle vient? Tu connais avant qu'elle vienne là-bas avec qui elle sortait et qui était l'ex de son ex. Tu la vois, ses genoux te cognent quand? Un homme m'a dit, il m'a dit au bureau, pasteur, je n'arrive pas à vivre sans elle. J'ai dit, sans elle, tu vivais avant, sans elle, après aussi, tu vivras. Et j'ai côtoyé cette famille. Je l'ai perdu de vue. Une année après, j'ai retourné. On dit, l'homme est malade. Mais d'abord, c'est la femme qui a commencé par être malade. La plupart des fois, c'est la pauvre femme fidèle. Dans sa fidélité, elle meurt à cause de toi. À cause de ton manque de discipline, il est allé attraper la maladie, il a ramené à la maison, la femme est décédée. La femme est décédée de le mari. Je suis retourné en 2006 à Goma, j'ai retrouvé ses enfants. D'abord, on les appelle les Maïbobo, les enfants de la rue. J'ai trouvé simplement les enfants de la rue, mais un était en train de parler en français. Je regarde, il m'a dit, tu me reconnais? J'ai pleuré. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais dilapider l'avenir des Eunice, des Rohan, des Gloria. Et des Joanna pour les belles jambes d'une femme. Rien ne remplace un papa qui peut se battre pour ses enfants. Quand tu pars, tout peut changer. Je me garderai pour Dieu, je me garderai pour elle, mais je me garderai aussi pour l'avenir de mes enfants. Une marche par conviction. Et comme je dis, c'est un choix que l'on s'impose. Cinquième principe, le contentement attaché à la sexualité est dicté par l'amour que l'on a pour Dieu et pour son conjoint et sa conjointe. La meilleure manière de montrer qu'on aime l'autre, on reste avec. Où sont les hommes qui restent avec leurs épouses? Que des hommes et des femmes qui n'arrivent pas à se contenter de leur seul conjoint pour diverses raisons. J'ai noté 7 raisons qui font que quelquefois les gens n'arrivent pas à se contenter. Première raison, problème des conversions. Certains n'arrivent pas à se contenter parce qu'ils viennent à l'église mais n'ont jamais reçu Christ. Un homme me disait un jour, je parlais avec lui sans rire, hein, je préfère illustrer ça. Il dit, pasteur, moi je suis converti de là jusque là. Mais de là jusque là, j'ai besoin de Jésus. Toi, tu es converti jusqu'où? Moi, Roland Dallo, de là jusque là. Deuxième raison, problème de discipline personnelle. Il y a des gens qui quelquefois ont le contentement, mais manquent de discipline, légèreté dans les langages. On mariait toujours prêt à toucher les autres. Secrétaire, sœur, comme un homme disait, si on ne peut pas manger les fruits défendus, on peut au moins les toucher. Ça t'amènera jusqu'où? troisième raison, incapacité ou difficulté à gérer la différence des tempéraments sexuels. Il arrive des fois qu'on rentre dans une vie de couple, on n'a pas les mêmes tempéraments sexuels. Il est très actif, elle est moins active. C'est pour ça tout à la fin de tout à l'heure, on va légèrement déborder, mais je trouve que c'est nécessaire. C'est quelquefois nécessaire de s'adapter. Si lui, il est hyper chaud, et moi je suis très froid, il est très chaud, doit revoir ses ambitions à la baisse. Celle qui estime qu'elle est froide, elle doit aussi. Sinon, ça créera un problème. Mais quelquefois, il y a un manque de contentement parce qu'il y a une différence. Deux questions différemment. Quatrième raison, incapacité de se contenir durant les moments où les équilibres sont rompus. Éloignement. Il y a des hommes qui se contentent tant qu'ils sont ici, qu'ils aillent seulement en mission de service. Mission de service égale infidélité. Mais à part le moment d'éloignement, il y a aussi début de grossesse. Les femmes qui vivent difficilement les grossesses, premier trimestre, ne veulent pas qu'on la touche. Si tu restes un mois sans la toucher, est-ce que tu vas mourir? Je disais, je ne sais pas très bien comment on parlait, mais je sais jusqu'où je peux aller. Il y a des hommes, des tireurs d'élite. Elle a un deuil, elle vient de perdre sa maman. À peine elle rentre, on a zogourade. Sa douleur, tu ne vois pas. Tu ne vois que ton plaisir. Ça te coûte quoi de la laisser faire son deuil? 5-6 jours, demande la grâce de Dieu, Dieu la donne. Cas de maladie, accouchement par césarienne, et les médecins disent non, il faut attendre le temps que la plaie se cicatrise. On n'en meurt pas. On peut être romantique, on peut être tendre l'un vis-à-vis de l'autre, sans forcément que ce soit la sexualité. Cinquième raison, problème psychologique. Il y a certains qui n'arrivent pas à expérimenter les contentements parce qu'ils ont des problèmes psychologiques. Les psychologues parlent des nymphomanies, des hommes insatisfaits qui doivent aller 5 fois par jour. Problème psychologique, femme insatisfaite. On en parlait avec le pasteur Véran. Il a parlé d'un cas qu'il a suivi. J'ai suivi aussi en 1995 le cas d'une jeune fille. Pour qu'elle soit bien par jour, elle devait aller avec 10 hommes. Alors si tu l'as comme femme à la maison, tu vas fouiller. Sixième raison, problème spirituel. Il y a de ceux qui sont possédés, même en costume, cravate. Possédé. Le fou de Gadara faisait certaines choses parce qu'il avait des esprits. Et je prie que s'il y a des esprits derrière, que Dieu puisse s'en occuper en ces jours. Qui t'empêche de te contenter de ta seule femme? Mais septième et dernier point, incapacité à gérer les tentations ou les sollicitations extérieures. Les sollicitations extérieures, il y en a, il y en aura encore. 2 Samuel chapitre 11, versets 2 à 4 que nous avons lu. David était en train de se promener au-dessus de sa maison et puis il a vu une femme. Le fait de voir n'est pas un problème. Mais qu'est-ce qu'il a fait après? Il n'a pas su se maintenir. Il n'a pas su se contenir. Il a allé plus loin. Mais avant de conclure, j'aimerais dire ceci. Au-delà de la fidélité, il y a la nécessité de s'adapter. Par adaptation, j'entends le fait de s'accommoder, de s'ajuster à cause d'un changement qui arrive chez l'autre. Le but de l'adaptation est le maintien de la cohésion et de l'harmonie. L'adaptation suppose toujours deux choses, effort d'un côté et perte aussi. Là où il y a adaptation, il y a effort, mais il y a aussi perte. Mais perte pour le bien de l'autre et pour le bien du couple. Et parmi les domaines dans lesquels on doit s'adapter, j'en ai mentionné quelques-unes. Premièrement, s'adapter au tempérament sexuel de l'autre. Comment il fonctionne? Je m'adapte. Deuxièmement, s'adapter aux changements que la vie apporte chez l'autre. Et là, j'aimerais surtout parler aux hommes. Changement sur le plan physique de l'autre. Nous, les hommes, notre sexualité est liée au côté visuel. La Viviane que j'ai connue il y a 23 ans, après 4 maternités, n'est plus la même personne. Moi, pour que ça m'attire, sa poitrine doit être forte et debout. Mais est-ce qu'après 6 maternités, la poitrine sera debout? Pourquoi vous commencez à regarder ailleurs? Regardez-moi. Et il faut le contentement. T'es contenté de cette poitrine que j'ai. En louant Dieu, paie bien. Certains qui manquent le contentement, qu'est-ce que cette poitrine a changé? Je dois aller chercher une poitrine qui est différente. Regardez-moi, j'ai dit. C'est la même chose. Cette jeune fille que vous avez connue 10 ans avant le mariage, une peau très lisse. Comme quelqu'un disait, Bakus, le Makoso. 8 ans, 10 ans, 12 ans, maternité, il y a des viscères partout. Vous pouvez lire même comme des cartes géographiques. Mais c'est ce que le temps a fait. Non, je ne supporte pas son ventre, ça m'attire plus depuis les césariennes. Il y a des lignes qui passent comme ça et tu veux quoi? Tu veux demander à Dieu la grâce d'accepter ça. Combien de fois nous les hommes n'arrivons pas à nous contenter? Seigneur, aide-moi à progresser avec Viviane et à l'aider, quels que soient les changements de la vie. Et elle-même aussi, elle m'accepte. Quand elle avait connu un garçon, j'avais bougie avant, bougie arrière. Ah, mes cheveux quand je les avais. Elle disait, au départ, je ne voulais jamais épouser un chauve. Ce qu'il ne savait pas, c'est que dans l'homme qui avait des cheveux, est-ce que je dois porter une perruque, chérie? Contentement. Si vous êtes d'accord avec moi, aidez-moi à dire amen.
Amen.
Les maternités, ça change la femme. Mais femme aussi, adaptez-vous au rythme de l'homme. Quand vous l'avez épousé, il avait 25 ans, 30 ans. C'était presque un monsieur univers fort, robuste, capable des exploits. Sept fois par jour, sept fois par semaine, des fois deux fois par jour. Mais avec le temps, la machine commence à avoir des ratés. Des fois, il veut, mais le corps ne suit pas. Loue Dieu. Une femme m'a dit, pasteur, on a eu en janvier, on a eu en février. J'ai dit, maman, koumi sanzambe ponango. Mais béni Dieu pour les qui en avaient beaucoup. Contentement. Fermez-moi la porte ici, là-bas. Personne ne sort aujourd'hui. À 50 ans, cet homme n'aura pas la même virilité. À 60 ans, ça ne sera plus la même chose. Sarah y a compris cela. Quand on lui a dit, vous allez mettre, il dit, Abraham, béba. Seigneur, Abraham, vieux gaou. Assis là. On en parle en rigolant. Je me souviens de cette femme que j'ai reçue au bureau de là-bas, on est en train de pleurer. Pasteur, ça fait 2 ans, papa m'a touché 2 fois. Elle pleurait. Et dit, même la deuxième fois, il a commencé, il a perdu sa force. Dur. Que dire quand les maladies viennent? Il a fait un AVC. Il est devenu diabétique. Et j'insiste sur ces choses. Si les solutions peuvent être trouvées, trouvez-les. S'il n'y a pas de solution, adaptez-vous. Ne vous mettez pas à doper, papa. Bidou tanga. Parce qu'il doit être performant. Tu l'amènes vers les cimetières. Mieux vaut l'avoir n'ayant pas toutes les performances que de l'obliger à être performant et de le pousser vers la sortie. Si les dames sont d'accord avec moi, dites amen.
Amen.
Je savais que vous n'allez pas trop dire, mais j'ai dit amen.
Amen.
Gardez nos seigneurs. Gardez nos seigneurs. Ne les amenez pas trop vite dans l'au-delà. Votre produit préféré, Viagra. Maintenant, son bango est belé. Vous savez, tout ce qu'il y a comme médicament, on vous dit pas toujours effet secondaire. J'ai connu un homme, on vient de parenté. À 55 ans, il arrivait à bien fonctionner. Sa femme l'obligeait, coûte que coûte, prendre ses produits. Un jour, il est mort en plein acte. C'est du dopage. Certaines choses, laissons se faire naturellement. S'il peut y avoir un autre apport naturel aussi, tant mieux. Mais faisons attention. Bénissons Dieu quand c'est terrible, au complet. Mais acceptons quand ce n'est plus. David a dû se contenter, toucher la tsunamite, mais il ne pouvait pas aller loin. Pourquoi? Parce que c'est ce que la vie lui donnait. En terminant ces jours, j'aimerais dire que si le contentement sur le plan sexuel n'est pas quelque chose de facile, il est, comme Paul l'a dit dans 1 Timothée 6, 8, une source de gains. Il protège de trois choses. Premièrement, il protège nous-mêmes. Il nous protège. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 18, celui qui vit dans l'impudicité pêche contre son propre corps. Mais deuxièmement, le contentement nous protège des problèmes que nous pouvons éviter. Nous protège des déviations sexuelles. Romains 1, 24, 28 nous parle de toutes sortes de déviations que les gens arrivent à avoir sur le plan sexuel parce qu'ils n'ont pas les contentements. Mais je termine en disant, troisièmement, il nous protège des problèmes temporaires, mais aussi des problèmes éternels. Les contentements. Apocalypse 21, verset 8, Apocalypse 22, verset 15, nous dit que les impudiques et les adultères, ils auront leur finalité dans le feu de la chaîne. Celui qui n'arrive pas à se contenter, qui va à l'extérieur, il a Dieu. Hébreux 13, 4 dit que le mariage soit honoré de tous et que le mariage exempte de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. 1 Corinthiens 6, 9 dit clairement que les injustes, les impudiques, les adultères n'hériteront pas les royaumes des cieux. Mais il nous protège aussi des problèmes temporaires. Parmi les problèmes temporaires, il nous permet de garder notre communion avec Dieu. Il permet que nos prières soient exaucées. Deuxièmement, il nous épargne des problèmes psychologiques et émotionnels. Conscience chargée à cause de ce que l'on a eu à faire. Psaume 51, verset 5. Mon péché est constamment devant moi. Que des gens qui ne se contentent pas et qui ont la conscience qui les réproche, ils commencent à mentir parce qu'il faut couvrir. Il nous protège aussi des problèmes temporaires sur le plan social. Des bâtards. Des enfants en dehors du couple. Des grossesses. Mais il nous protège aussi sur le plan santé. Des maladies que l'on peut éviter. Sans compter les maladies sexuellement transmissibles jusqu'à la maladie la plus grave, les sida. Il nous protège des problèmes physiques, avortements. Des choses que l'on ne pensait pas faire, mais que l'on doit faire parce qu'il faut couvrir. Mais puis enfin, il protège les témoignages de l'Église. 1 Pierre chapitre 2, verset 12 dit, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite. » Un homme qui vient à l'Église et qui ne vit pas dans les contentements, c'est l'Église qui est salie. Combien de fois une fille qui sortira avec vous, quand il te verra ici, il dit, « Ouf, cette Église, ils ne sont pas sérieux. » Il verra une jeune fille qui chante chez nous à la chorale, mais qui triche avec le mari d'autrui. Il dira, « Dans cette Église, ça ne sert à rien. » Romains chapitre 2, verset 24, il dit, « Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. » Le manque de contentement est à la base des scandales, et des scandales graves. J'en ai parlé une fois ici, je prêche l'évangile à Bukavu, et j'arrive, je vois un homme de Dieu que je connais, que j'appréciais. Il venait d'être mis sous discipline dans son église, et sa femme venait de partir avec les deux enfants. Pourquoi? Parce qu'il avait triché avec sa jeune sœur, la jeune sœur de l'épouse. Ça a été connu, mis sous discipline, épouse partie, réputation perdue. Il vient me voir au bureau, il dit, je dois me suicider. Il y a certaines choses, si je le faisais, est-ce que je saurais regarder Eunice? Est-ce que je saurais regarder Johanna dans les yeux? Est-ce que ces filles pourront-elles parler en cours des routes? Contentement. En matière d'argent, contentement sur le plan sexuel. Je prie que nous baissions la tête. J'oblige que personne ne sorte. Sortez, fermez la porte et dites-le de me voir. Gardons nos têtes courbées, yeux fermés. Je ne vais pas lancer un appel au vrai sens du mot. J'aimerais simplement ce matin que nous agir à ce message. Mabena boyosala, yamode na zali kosala, bola mona lingi, nzoko kaka kosala te. Et on lance comme un cri, kolo Yesu, sungangai. Mabena boyosala.